à Rencontre spirituelle. Aujourd'hui, il sera question du bienheureux Clemente Marchisio. Ça fait suite presque à l'émission qu'on vient d'entendre avec l'abbé Claude Bertrand. C'est tout à fait dans la même ligne, puisque le bienheureux Clemente Marchisio, Clément Marchisio, est un prêtre italien, qui est mort en 1903, et qui était justement un prêtre selon les façons qu'on comprenait le sacerdoce avec feu, n'est-ce pas? À cette époque, c'était un apôtre de feu. On l'a comparé à Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. C'était un homme vraiment exceptionnel qui était curé au même endroit pendant plus de 50 ans. Quand le curé d'Ars, qui avait 32 ans, a pris charge de la cure d'Ars, dans le sud de la France, en 1818, un peu par la suite de la Révolution française, dans un creux terrible pour l'Église, il allait être curé là 41 ans, jusqu'en 1859. Et l'année suivante, en 1860, c'était cet autre curé dont je vais vous parler aujourd'hui qui prenait possession au lieu de sa paroisse, dans le nord de l'Italie, près de Turin, à Rivalba. C'est un jeune prêtre de 27 ans. Il va en être curé, 44 ans, lui, pas 50 ans, pardon, 44 ans. Jusqu'à sa mort, le 16 décembre 1903, c'est qu'il a été curé ailleurs avant. Et il y a donc près d'un siècle qu'il est mort, pas tout à fait encore. Mais beaucoup de ressemblances entre ces deux curés, le curé d'Ars puis le curé Marchisio. Marchisio, ça s'appelle M-A-R-C-H-I-S-I-O. CH en italien, dans le milieu d'un mot, ça fait comme un K, hein? Vous savez ça. Hein? Et alors, tous deux ont reçu des charges lourdes à porter. C'était des églises délabrées, des paroisses peu religieuses. Vous savez que Ars, je vous ai déjà raconté ça il y a bien longtemps, le 4 août 1995, mais il va falloir que j'y revienne. Hein? C'était un village, Ars, un village mortel d'ennui, où on dansait, on s'amusait. Des mortels d'ennui au point de vue spirituel. Il restait presque plus rien. Un peu comme dans certaines de nos paroisses. Et puis, le village de Rivalba, là, près de Turin, lui, on appelait ça la tanière du diable. Alors, l'un et l'autre curé se sont attaqués résolument, avec vigueur, hein. Ils se sont attaqués au vice, comme on dit, oui, au vice. N'ayons pas peur du mot, on pourrait dire autre chose, les problèmes, les difficultés de pratiquer la religion, etc. Non, on dit les vices. Car les gens étaient vraiment vicieux, à tout point de vue. Honnêteté, intégrité, langage, relation, etc. Et tous ces vices les éloignaient évidemment de Dieu. Hein. Ça valait au curé d'Ars des tas de difficultés, et ça vaut au curé de Rivalba une vraie persécution qui va durer environ 10 ans. Pour amener les âmes à Dieu, ils ont pris tous les deux les mêmes moyens, c'est-à-dire la pénitence personnelle. Oui, la discipline. Puis de très longues heures de prière en silence. Et chez les deux prêtres, il y avait le même souci de leur responsabilité. C'est le curé d'Ars qui disait, je veux pas faire peur aux futurs prêtres et aux séminaristes, là. De quelle frayeur ne doit pas être saisi un pauvre prêtre exerçant un ministère si redoutable, où il est dans un si grand danger de se perdre lui-même en voulant sauver les autres? Car ça peut être drôle d'entendre tous ces péchés-là en confession, puis ces histoires à bracadabrante et effroyables. Ça doit être lourd à porter. Et de son côté, l'abbé Clément Marchisio, lui, ne se gêne pas pour dire que la charge que porte un pasteur est terrible. Moi, j'ajouterais que la vie du prêtre est la plus belle qui soit. L'un et l'autre ont connu de grandes peines, puis de grands découragements. Ils ont même pensé tous les deux à fuir. Oui, fuir le fardeau trop pesant qui leur est imposé, mais ils ont préféré finalement obéir, hein, on vient de vous parler de l'obéissance du clergé à l'émission précédente, eh bien ils ont préféré obéir à l'autorité qui leur demande de rester, puis ils sont demeurés à leur poste et tous deux se sont consacrés aux pauvres. Oui, se consacrer aux pauvres. Le curé d'Ars fonde l'orphelinat de la Providence, puis une école gratuite, lui. L'abbé Clément Marchisio, lui le curé, y fonde un asile pour enfants puis un atelier de tissage. Et la seule différence, c'est que Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, lui, il utilise des communautés religieuses qui existent déjà. Lui, le curé de Rivalba, il fonde une communauté qui va donner plus tard naissance à une congrégation vouée à l'Eucharistie. Et c'est eux qui s'occupent de la sacristie de Saint-Pierre de Rome, par exemple, et de nombreux autres endroits aujourd'hui. Elles ont changé de vocation, si on peut dire, ou d'œuvre. Ces deux curés-là ont peu d'instruction. Ce ne sont pas des prêtres savants. Je ne vais pas dire qu'ils sont ignorants, mais je veux dire que ce ne sont pas nécessairement des gens très cultivés. Ils ont cependant appris la chose la plus importante, peut-être, la science des saints. La science des saints. Le premier auprès de M. Ballet, un prêtre, et le second auprès de Saint-Joseph Cafasso, dont il faudrait bien que je vous parle un jour. Quel prêtre extraordinaire que ce prêtre Cafasso! Tous deux aussi sont habiles, hein? Entreprenants, ils sont audacieux. La sainteté, c'est toujours imaginatif, au fond. C'est quelque chose d'imaginatif, la sainteté, pour le bien des âmes. Hein? Ils trouvent toujours toutes sortes, disons, de trucs pour arracher les âmes à leur stupidité, à leur malheur, à leur souffrance. Mais ces deux prêtres sont totalement prêtres. Ce sont des curés pleinement curés. Dans le bon sens du mot curé, évidemment. Curé, ça veut dire prendre soin. Curare, curé. Prendre soin, prendre charge. Rien d'autre. C'est comme ça qu'ils se sanctifient. Puis qu'ils vont transformer leur paroisse. Et de 1834, après 16 ans de prière et de travail, on peut dire que Ars n'est plus Ars. Puis à la mort de Don Marchisio, lui, dans le nord de l'Italie, les gens vont reconnaître, nous avons perdu un saint. Nous n'aurons plus jamais un curé comme lui. C'est par ses vertus héroïques qu'il a transformé sa paroisse en y mettant l'amour de Dieu à la place des platitudes puis de la petite vie insignifiante. Lorsqu'on va de Turin à Cuneo, ou Coni, à 38 kilomètres, on rencontre un tout petit bourg qui s'appelle Ragonigi, et c'est là que naît et est baptisé, le 1er mars 1833, ce Clemente Marchisio. C'est l'aîné de 5 enfants. Son père s'appelait Giovanni, sa mère Lucie Becchio. Je donne les noms parce qu'il y a des Italiens qui m'écoutent, et c'est peut-être des noms qu'ils portent. Et la famille est estimée tant que sa foi... Tant pour sa foi, pardon, que pour son ardeur au travail. Le père, Giovanni, le Marchisio, c'est un cordonnier. Il n'a qu'un rêve, c'est que son aîné, qui va devenir le saint, le prêtre, puisse l'aider un jour dans son métier de cordonnier. Mais tout jeune, Clément déclare, « Je veux être prêtre, je veux être curé. » Et la mère, qui est une sainte femme, elle persuade son mari, puis elle lui dit, « Bon, laissez-le donc devenir prêtre, pourquoi pas, hein? » Mais chez les Marchisio, on manque des ressources nécessaires pour l'envoyer aux études. Alors, heureusement, un prêtre intervient, puis généreusement, il permet à l'adolescent de suivre des études secondaires, puis d'étudier la philosophie. Alors, à 16 ans déjà, Clément Marchisio prend la soutane. Oui, on prenait la soutane très jeune à l'époque. Même dans d'autres, moi j'ai vu ça en Espagne, même à Saint-Benoît-du-Lac, où au temps de la guerre, il y avait des enfants qui prenaient la tunique monastique à 12 ans. Bon, lui, il apprend à 16 ans, la soutane, et ce qui est étrange, c'est bien dans la mentalité du clergé de ce temps, il lui restait toujours fidèle à sa soutane, même pour faire des travaux de maçonnerie. Je me souviens, à Brébeuf, dans les années 40, justement, les jésuites jouaient au hockey avec leur soutane, ben oui, puis au tennis, ils relevaient leur soutane là, en avant, et c'était facile à relever, la soutane des jésuites n'avait pas de bouton en avant. Alors, il va même refuser, lui, d'enlever sa soutane pour prendre des bains de mer. Non, il préfère ne pas prendre de bains de mer. Et puis, il la garde même pour subir une intervention chirurgicale à la tête. C'est un têtu un peu, hein? Je ne dirais pas un peu borné, mais il est jeune encore. Il va se sanctifier, vous allez voir, hein? À l'automne de 1851, il entre... 13 ans au séminaire de Bra pour y faire sa théologie. Nous, c'était 18 ans, ça. Puis, il n'est pas ce qu'on appelle un intellectuel, je vous l'ai dit. Il se fait remarquer plutôt par son savoir pratique, son obéissance, sa ferveur. Il est tonsuré en 1855. Puis, il est ordonné prêtre. le 21 septembre 1856, à 23 ans. 23 ans est déjà prêtre, imaginez. Ça arrivait souvent, même il n'y a pas longtemps, beaucoup de prêtres n'avaient que 23 ans. Je me souviens de ça, j'ai connu ça. Alors, jusqu'à ce jour-là, il a été emporté par son ardeur juvénile, comme je vous ai dit. Il n'a pas mesuré les responsabilités sacerdotales, si bien qu'au moment de l'ordination, il passe par des heures d'anxiété. Il se réveille, quoi. Mais heureusement, il a pu fréquenter pendant 2 ans un internat ecclésiastique de Saint-François d'Assise à Turin. Puis il y a eu pour maître Saint-Joseph Caffasso, dont je vous ai parlé. Et puis, c'est lui qui déclarait « Être prêtre, c'est le chemin le plus sûr pour aller en paradis. Et pour y conduire les autres, on ne peut désirer que l'éternité pour remercier dignement le Seigneur d'une telle grâce. » Alors, je répète cette phrase pour tous ceux qui songeraient à devenir prêtres, tous ceux qui m'écoutent et qui sont au grand séminaire, là. « Être prêtre, c'est ce que dit Saint-Joseph Caffasso. Être prêtre, c'est le chemin le plus sûr. » Pour aller en paradis et pour y conduire les autres, quand on a la vocation, évidemment. Hein. On ne peut désirer que l'éternité pour remercier dignement le Seigneur d'une telle grâce. Moi, je suis laïque, je tiens à spécifier des gens qui pensent que je suis prêtre. Je ne suis pas prêtre. Lorsqu'il est en internat, là, Clemente Marchisio avoue, j'y suis entré comme un grand gamin. J'avais une tête étourdie, sans savoir ce que je voulais dire être prêtre. Et au moment de ma sortie, je suis totalement différent. J'ai pleinement compris la dignité du sacerdoce. Alors prêtre, il va l'être, puis rigoureusement, puis à plein temps, pendant près de 50 ans. Il sera sans arrêter un prêtre digne et authentique. Au début, tout va bien. Il est nommé vice curé, donc vicaire. À une 20aine de kilomètres de Turin, une paroisse de 2000 âmes, il distribue 400 communions par jour. Très pratique, très pratiquant ces gens-là. Il exhorte les fidèles, écoutez bien ça, à la pratique de la messe quotidienne. Donc c'est un prêtre qui est exigeant, mais qui a bien raison d'être exigeant sur ce plan-là, parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'aller à la messe quotidienne quand on a le temps d'y aller. Recevoir Dieu lui-même. Glorifier Dieu notre Père tous les jours, ensemble, avec toute l'Église, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Puis les exhorte à la visite au Saint-Sacrement, c'est-à-dire la prière en silence, devant le Christ dans le tabernacle. Il faut bien comprendre qu'il avait bien raison. En avril 1859, il y a une guerre franco-italienne contre l'Autriche, et ça change les choses. Il y a des troupes françaises qui séjournent là, puis Don Marchisio prévient la jeunesse des dangers de la présence des soldats français. Les soldats français se plaignent. Alors, le jeune vicaire de 26 ans est transféré à Vigone. Il ne restera qu'un an dans cet endroit, puis finalement, 1860, comme je vous l'ai dit au début, il est nommé curé à Rivalba, un village dans une région intolérante, violemment anticléricale. Il arrive accompagné de son père, il n'a pour tout bagage qu'une simple valise. Il a une relique de la vraie croix, mais cette croix, c'est lui qui pendant des années va la porter, puis elle va être lourde. Il faudrait citer en entier le discours d'installation de ce nouveau curé de 27 ans. Le texte nous a été gardé. Il dit à un moment donné, « Je vous dois le bon exemple, l'instruction, mes services et tout moi-même. Je dois même me sanctifier pour vos âmes si c'est nécessaire. » Il y a 27 ans, il parle comme ça. Il dit que son premier devoir, c'est le bon exemple. Il dit, « Mon second devoir est de vous instruire. » Et en troisième lieu, je vous dois mes services. Je vous fais grâce de tout ce qu'il dit à ce sujet, c'est de toute beauté. Et il termine en disant, à mes services, j'ajouterai ma prière. C'est par elle que Saint Paul a converti tant d'âmes. En retour, je vous demande confiance et amitié. Je vous réclame la reconnaissance de vos prières, afin de vous être plus utile encore. Don Marchisio, qui sera béatifié il y a quelques années, commence dans son village par enseigner le catéchisme. Il catéchise les enfants. Ce seront ses préférés. Il les écoute, puis il l'écoute beaucoup parce qu'il les instruit de façon simple, claire, vivante. Il les prépare surtout à bien faire leur première communion, qu'ils sachent qu'ils font. Mais voici qu'en chair, il imite ce qu'a fait le curé d'Ars contre les clubs. Vous savez, vous vous souvenez de ça? Les danses, la profanation du dimanche. Il tonne contre les blasphèmes. Il est jeune encore, mais il va pas de main morte. Il parle contre l'irrespect du jour du Seigneur, la dépravation des mœurs. Il dit même à ses auditeurs à un moment donné, « Sachez-le une fois pour toutes. Je ne suis pas venu ici pour vous plaire, mais pour vous dire la vérité et vous convertir. » Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais ça a marché. Mais ça a pris du temps. La vérité est bonne à dire, mais n'est pas toujours bonne à entendre. Alors habilement, de manière sournoise d'abord, puis de façon ouverte, là, les fidèles, ou les gens peut-être, que choquent les sermons du jeune curé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de le faire taire? En lui rendant la vie absolument impossible, les hommes manifestent les premiers. Alors à la messe, dès que la lecture de l'Évangile est terminée, ils font un signe de croix vague, là, puis ils quittent l'église. Puis évidemment, pour garder la paix dans les ménages, ben les femmes quittent en même temps, sont de bonnes épouses. Qu'est-ce qu'ils veulent ces hommes-là? Ben ils veulent pas l'écouter prêcher, évidemment. Hein? Alors le prédicateur, pauvre Clemente Marchisio, il se trouve donc seul devant un auditoire de quelques vieilles sourdes, puis de quelques gamins un peu dissipés. Bientôt, la rage des paroissiens se déchaîne. Ils sont pas contents de seulement refuser d'entendre le sermon. Il y en a qui introduisent par la porte de l'église un âne qui s'ébraire à tue-tête. Alors, un individu interpelle le prêtre. « Regarde ton frère qui braie comme toi. » C'est insultant. Les témoins constatent alors la tristesse qui embrume le visage du jeune curé. Un instant, il cache sa figure dans ses mains. Puis il prêche avec clarté, ferveur, conviction et persuasion. Faut le faire. Hein? Quel courage, un vrai prêtre. Et ses ennemis organisent encore contre lui d'autres sortes de sottises, du vacarme auprès de l'église, des coups de sifflet, des chants provocateurs. Dans les coulisses, de mauvais fidèles étudient ses moindres mouvements. Ils répandent contre lui des calomnies, alors que c'est un saint. Il ne répond pas. Ils le font appeler pour des faux mourants. On n'hésite même pas à la lutte armée contre lui. Hein? Il y en a un qui l'attaque, mais heureusement, il est fort. Et puis, il arrache des mains le bâton que l'autre veut utiliser pour le frapper. Mais ce que fait le curé est absolument phénoménal. Il a une maîtrise incroyable de lui-même. Il rend le bâton à ce criminel, puis lui dit « Prends et fais de moi ce que tu veux. Je suis prêt à mourir, mais je ne regrette pourtant qu'une seule chose, c'est que tu seras découvert et que tu tomberas entre les mains de la justice. » Phew. Mais évidemment, les persécutions répétées finissent par produire l'effet escompté. Alors là, ce pauvre curé prend peur, puis il fait comme le curé d'Ars, il demande à partir, il songe à partir, à s'enfuir. Le curé d'Ars, lui, s'est vraiment enfui. Hein. Alors on lui répond qu'il doit rester sur ce calvaire. Alors il s'abandonne à Dieu puis se confie à son ange gardien. Oui, c'est pas bête se confier à son ange gardien, quelle bonne idée. Puis il se fait aussi un devoir de vivre sans reproche afin de ne pas donner prise au démon. Finalement, il ne craint plus personne et son refuge, c'est quoi? C'est le tabernacle. Il dit qu'il lui suffit d'y passer 5 minutes pour retrouver confiance et jamais il ne se plaint. Au contraire, il dit pour aimer Jésus, non pas seulement en paroles enflammées, mais en actes, il faut être haï, renié, faut souffrir, et être fatigué, humilié pour lui. Le bien majeur s'accomplit sur la croix. Je répète, pour aimer Jésus, non pas seulement en paroles enflammées, mais en actes, il faut être haï, renié, faut souffrir. Et être fatigué et humilié pour lui. Il dit aussi, la vie chrétienne est une vie de martyr quotidien, même pour le prêtre. Vivre en bon prêtre coûte beaucoup. Alors la persécution va durer 10 années. Le dernier acte, si l'on peut dire, consiste dans le refus qui lui est opposé de bâtir une nouvelle église. Il avait acheté 100 000 briques. Alors, il se contente de faire nettoyer puis orner la vieille église qu'il aurait voulu remplacer. Puis quant aux briques, bien, il va les utiliser pour d'autres œuvres. Il y a d'autres paroissiens, cependant, après avoir scruté toutes sortes de comportements de ce prêtre, s'aperçoivent que leur curé est fidèle aux engagements qu'il a pris. Puis ils vont dire plus tard combien ce curé les édifiait. Quant à ses ennemis, ils finissent par retrouver Dieu. Puis Don Marquisio n'a plus alors que le péché de l'ensemble de la paroisse pour adversaire, parce que, évidemment, nous sommes tous des pécheurs. Il dit au Seigneur, « Donnez à ma voix la force de pénétrer les cœurs et une très puissante vigueur pour abattre et pour déraciner le vice de cette paroisse. » Il veut faire de tous ses paroissiens des saints. C'est un ennemi de la Dolce Vita. Il se lève le matin à 5 heures, il se couche à minuit. Il commence sa journée par un quart d'heure de raison, suivi d'un chapelet. Il s'est fait un emploi du temps qu'il respecte de son mieux. Il sait d'ailleurs faire passer l'essentiel avant l'accidentel, sans jamais accepter la moindre paresse ou quelque manque au devoir. Il y a quelque chose en particulier qu'il ne peut supporter, puis il a bien raison. C'est l'ignorance religieuse des enfants, comme elle existe chez nous de façon catastrophique, et l'ignorance religieuse des adultes, nos jeunes adultes, c'est vraiment très ignorant ici, en général, c'est terrible. Alors, il s'adonne chaque jour à une sérieuse étude de la Sainte Écriture. Il lit la Bible tous les jours. Et les protestants qui nous disent que les prêtres ne lisaient pas la Bible, eh bien, voilà un exemple. Et qu'on sache bien que les gens qui vont à la messe tous les jours lisent la Bible tous les jours, puisqu'ils lisent un passage de l'Ancien Testament, puis ils entendent aussi le Nouveau Testament. Ils ont le prion en église à la main. On lit dans nos églises catholiques, des centaines de milliers au Québec lisent la Bible tous les jours. Il la lit, lui, avec avidité, la Bible, dans sa chambre jamais chauffée. Et c'est cette étude intelligente de la Bible qui engendre chez lui une richesse spirituelle pour ses prédications, et plus tard aussi pour ses instructions assez religieuses qu'il va fonder. Il n'est jamais pris non plus lorsqu'il est appelé dans les paroisses voisines à prêcher les 40 heures. Vous vous souvenez de ça? 40 heures d'adoration du Saint-Sacrement de suite. Ça ne se pratique plus, je pense. Peut-être encore. Lui-même fait de temps à autre venir un prédicateur, mais il lui fait des remarques si c'est pas bien. Il aime le silence, la solitude. Il est sans cesse uni à Dieu, puis il est mortifié. Jamais on ne l'a vu relâcher, dit un témoin. Et une domestique qui dit quelque chose d'absolument fantastique, un témoignage extraordinaire. Je ne lui ai jamais vu commettre une faute, même légère. Il est surtout persuadé que pour convertir ses paroissiens, il doit payer d'exemple. Si chaque semaine, il se rend à pied par tous les temps pour se confesser. C'est une marche de plus de 12 kilomètres. D'ailleurs, lui-même se montre toujours disponible pour entendre les confessions. Il est souvent à l'église ou au confessionnal. Il exerce ce ministère sans longueurs inutiles cependant, mais avec une telle gentillesse, une telle bonté que les âmes repartent tranquilles et satisfaites. On dit qu'il confessait comme un ange. Avec finesse, délicatesse et miséricorde. Comme tant de prêtres auxquels je me confesse, je me suis confessé dans ma vie, que de délicatesse de la part de nos prêtres, ici à Montréal. Oui, allez-y, vous verrez. J'ai perdu un sacrement autant que chez les jésuites, ou chez les franciscains, puis dans le clergé séculier. Que nos prêtres, en général, sont bons au confessionnal. Aujourd'hui, en 1997 et 98, aussi, les gens des régions voisines, ils viennent trouver la paix de Dieu auprès de lui. Ils viennent se confesser auprès de lui. Don Marquisio se sent en même temps obligé de réparer, puis d'expier, les péchés de ses pénitents et ses paroissiens. Alors, il dénonce leurs fautes, leurs vices. Il dit, ce qui me brise le cœur et ce qui m'empêche d'avoir la paix, c'est de voir tant de péchés commis avec indifférence, comme si le péché n'existait plus. Or, c'est le plus grand mal qui soit au monde. Il suffit pourtant de savoir combien Dieu est grand et bon, et le péché est une folie. Je ne comprends pas comment une créature raisonnable puisse demeurer tranquille avec des fautes sur sa conscience. Non seulement le péché apporte la ruine pour l'éternité, mais c'est déjà dans la vie présente une sorte d'enfer. À quelle fortune que d'être en la grâce de Dieu. On rapporte que Don Marquisio était charitable pour les besogneux. Il leur donnait de larges aumônes, et personne ne repartait de chez lui sans avoir reçu de l'aide. Il prétend pour sa part, lui, que les mets délicats ne conviennent pas tellement à son estomac parce que les plats raffinés ne sont pas faits pour les ânes. Il y a de l'humour. Il porte parfois, lui-même, de la nourriture, des boissons, des viandes, des potages, spaghettis, du bon vin, des douceurs aux malades. Ou bien, il charge quelqu'un d'autre de le faire. Sa charité s'exerce à l'égard de tout le monde. Et vis-à-vis même de ses adversaires, il se montre plus généreux encore. Il ne sait pas ce que c'est la rancune. Il n'a aucune rancune. Il apprend qu'un pauvre faim, un pauvre homme a faim, ou a froid, ou a la fièvre, alors il démolit son lit, il envoie les draps et les couvertures, surtout pour ceux qui dorment encore dans une grange, ou qui attendent le médecin, ou qui par honte se réfugient dans des écuries où dorment les animaux. Quant aux briques qui n'ont pu servir à la construction de sa nouvelle église, vous savez, vous vous souvenez, alors il les utilise pour bâtir, entre 1871 et 1875, un asile pour les enfants, ainsi qu'un atelier de tissage pour fournir aux jeunes filles une occupation puis un salaire. Des femmes l'aident à mener à bien ses tâches charitables. Et puis, tous les conseils d'un prêtre, il réunit ces femmes-là en communauté. Et c'est comme ça qu'il fonde, à 42 ans, en 1875, le 12 novembre, une nouvelle famille religieuse, qui va loger plus tard au château acheté au comte Balbo, et qu'il va restaurer avec les briques qui lui restent. Et plus tard, il donne à ses filles, qu'il appelle les filles de Saint-Joseph, une orientation toute différente. Elles vont devenir comme des sacristines, mais des sacristines extraordinaires, hein? Et comme les sœurs de la Sainte Famille à la cathédrale ici à Montréal. Un prêtre, Don Meotti, a attesté que toutes les intentions et les entreprises de Don Marchisio se sont référées au culte de l'Eucharistie. Un prêtre qui a la foi dans l'Eucharistie, si profonde, c'est extraordinaire. Chaque jour, il se prépare longuement à la célébration de la messe, longuement. Il l'a dit sans lenteur, mais dans un grand recueillement, et en observant fidèlement les rubriques, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire, les moindres gestes, mais avec respect, pas des gestes mécaniques qui n'ont plus de sens. Une religieuse va affirmer, il y était comme transfiguré, son visage changeait de couleur et devenait comme lumineux. Don Marchisio a déclaré un jour que chaque matin il célébrait son sacrifice comme une préparation à la mort, comme s'il devait recevoir le viatique. Hein? Le viatique, c'est la dernière communion qu'on reçoit avant de mourir. Pour le voyage, ça vient de voyage, viatique. Cette messe est suivie d'une longue action de grâce. Il dit, j'ai eu l'impression, c'est un témoin qui dit ça, j'ai eu l'impression d'un prêtre tout absorbé en Dieu, au point que je n'aurais jamais osé l'approcher et le distraire de sa méditation. Il n'y va pas de même mort, ce Don Marchisio. Il assiste à la messe de son vicaire, ainsi qu'à celle des prêtres de passage. Et il dit, plus j'entends de messe, et plus je voudrais en entendre. Je ressemble aux ivrognes, plus ils boivent et plus ils désirent boire. Or, il faut dire que Don Marchisio a toujours beaucoup de travail à accomplir, mais on aurait dit que l'assistance à ses messes lui donnait 10 fois plus de temps. C'est vrai que si vous voulez demander du bénévolat à quelqu'un, demandez à quelqu'un qui est très occupé, il va trouver le temps. Ceux qui n'ont rien à faire n'ont pas de temps. À ses paroissiens, il recommande de se préparer soigneusement à leur communion. Il dit, si vous ne préparez pas le terrain pour semer, si vous le laissez inculte, inutile pour vous de semer du bon grain. Il en est de même pour cet aliment de l'âme qui est la Sainte Communion. Celui qui veut recevoir les fruits de l'union à Dieu, conserver la vie de l'âme et en accroître les forces, bien, il doit posséder les dispositions nécessaires. Il met encore ses délices, lui, à demeurer devant Saint-Sacrement. Puis il cherche à faire partager aux autres sa propre dévotion. Quand il se promène, il cherche toujours en premier lieu le tabernacle. Et la nuit, combien d'heures, il passe solitaire devant Saint-Sacrement. Surtout lorsque la croix des incompréhensions de la part de ses fidèles, les calomnies, puis les dettes aussi, quand tout ça c'est très pesant. Un jour, il va chez les sœurs de Venise, sa communauté. Celle-ci, le lendemain matin, trouve le lit intact. Don Marquisio a passé la nuit debout, appuyé contre le tabernacle. Il conseille qu'en soit quelque peine, va chez Jésus, va vers Jésus Eucharistie. Aux sœurs, il recommande, lorsqu'elles subissent des contrariétés ou des tentations, d'aller devant le Saint-Sacrement. Il leur assure que bientôt, tout sera aplani. À une personne qui a de la peine, il lui dit, « Vois, même moi, je me trouve parfois bien accablé sous le fardeau des tribulations, mais après seulement 5 minutes passées devant le Saint-Sacrement, qui est notre tout, je me sens pleinement revigoré. Fais de même, quand je suis abattu et découragé, fais de même. » Alors, inutile de dire que d'année en année, la fête de Dieu va reprendre, va devenir, Rivalba, son village, paroisse, une explosion de gratitude et de joie. Hein? C'est le culte de Jésus présent dans l'Eucharistie qui le pousse à fonder les filles de Saint-Joseph dans le but de fournir tout ce qui est nécessaire au Saint-Sacrifice de la Messe. Son projet initial de famille religieuse pour former puis protéger la jeunesse ouvrière avait été jugé acceptable, mais après avoir longuement prié puis demandé l'avis de ses supérieurs, confie une charge toute différente aux sœurs, dont la première prise de d'habit a lieu en 1877. Consacrer leur vie au culte eucharistique, voilà leur but. Alors elles accueillent à l'unanimité et enthousiasme cette nouvelle façon de se consacrer, surtout la fondatrice, sœur Rosalie Sismonda. Et Don Marquisio est tous les jours blessé au tréfonds de son âme en apprenant ont eu lieu des profanations eucharistiques. Il y en a beaucoup, des profanations eucharistiques. Il est de même tourmenté par l'invalidité possible de la matière, le pain et le vin. Il faut vraiment que ce soit du pain et du vin tel que on le demande. Il est affligé aussi par le spectacle des ornements liturgiques en mauvais état, la malpropreté des nappes et des linges d'autel. Et c'est pourquoi, au lieu de servir le Christ dans les ouvriers pauvres, les sœurs vont se consacrer à servir le Christ dans son sacrement d'amour. Ce qui fera dire un jour à Léon XIII, « Eh bien, finalement, notre Seigneur a pensé un peu à lui-même. » Comme quoi Léon XIII avait beaucoup d'humour et pouvait s'amuser de ce que Jésus pensait à lui. La charge propre de la congrégation sera donc de préparer avec le maximum de respect là, tout ce qu'il faut pour célébrer la messe. Elles le font, comme je vous ai dit, à Saint-Pierre de Rome. Il met ses religieuses sous le patronage de Saint-Joseph parce qu'il lui est très dévot. En plus de son exemple, Saint-Joseph va apporter encore son secours et en mai 79, Don Marquisio, curé de Rivalba, achète le château donc des comtes Balbo et le fait restaurer puis couronner par une belle statue de Saint-Joseph. Au mois d'août, les sœurs y entrent. Mais que de soucis cette fondation va engendrer. Il a bien raison de dire aux religieuses, « Mettons les choses dans les mains de Saint-Joseph. C'est notre bon Père qui ne nous laissera manquer de rien. » Et ce secours de Saint-Joseph sera d'autant plus nécessaire que, dès 1881, naît à Turin la première maison-fille, puis, en 83, celle de Rome, suivie d'Ivrea, de Milan, de Gênes, de Novare, de Venise, de Bologne, de Vérone, de Cuneo, de Plaisance, de Niguarda, de Padoue. C'est pour vous indiquer comme tout ça grandit très, très vite. C'est fantastique. Et à la mort du fondateur, en 1903, l'Institut va grouper 600 sœurs en 14 maisons. Extraordinaire. Il ne faut pas cependant oublier que les difficultés matérielles ne découragent pas les filles de Saint-Joseph. Ils désirent leur inculquer un esprit de foi dans l'accomplissement de leurs tâches. À celles qui confectionnent les cierges, il leur dit « Ayez l'intention de brûler pour le Seigneur comme ces chandelles qui se consument pour lui. » À celles qui fabriquent les hosties ou qui mettent en bouteille le vin de messe, ils rappellent « Vos mains doivent être pures pour préparer la matière du Saint-Sacrifice, pareil à des rayons de soleil ou à celles de la Madone. Souvenez-vous que vous devez être des victimes d'amour de Jésus au Saint-Sacrement. » Ils leur parlent simplement « Ce sont des filles simples qui viennent souvent de la campagne, des milieux simples, qui sont des ouvrières au fond, mais qui sont devenues des ouvrières pour Jésus-Christ. » Ils souhaitent qu'en travaillant, les religieuses découvrent leur parallélisme mystique avec la Sainte Vierge aussi. La Sainte Vierge a, de sa chair, formé la matière du corps humain du Sauveur. Alors, pareillement, elle, ses sœurs, elle prépare la matière du sacrifice de l'autel qui va devenir le corps du Christ. Jamais Don Marquis y agit de son propre chef. D'abord, il prie pour avoir les lumières nécessaires, puis il prend conseil auprès d'hommes sages, de ses supérieurs. Il peut donc garantir son esprit de discernement. Ces hommes étaient obéissants à cette époque. C'était dans la formation des prêtres. Aujourd'hui, on insiste aussi beaucoup sur la personnalité du prêtre. Les autorités cherchent à développer la personnalité du prêtre sous l'obéissance, dans le domaine de l'obéissance, mais sans brimer la personnalité, sans détruire les gens qui sont sous la juridiction des supérieurs. Je crois que c'est beaucoup plus sain. Il n'a pas toujours été bien reçu. Il se soumet à son confesseur ainsi qu'à son archevêque, qui ne lui est pas favorable à un moment donné. Il dit, « S'il arrivait que l'archevêque me commande de tout laisser, j'obéirais aussitôt, car je considère qu'il tient la place de Dieu. » Vous voyez l'obéissance. Aux sœurs, il enseigne avec insistance le même esprit de soumission. Il dit, voici ce qu'il dit au sujet de l'obéissance. « Par l'obéissance, on sacrifie sa volonté, son cœur, son jugement propre. Par la chasteté, on sacrifie son corps. Par la pauvreté, on sacrifie les biens matériels. Et en sacrifiant tout, ainsi, par amour de Dieu, il le dit bien, par amour de Dieu, vous avez tout. Soyez des âmes fortes, pensant qu'en tout réside la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite, nous enseigne Jésus dans sa prière, le Notre Père. Nous devons nous sanctifier, dit-il, selon la manière que Dieu décide et non selon la nôtre. Il dit aussi, dites à Jésus, ô Jésus, ajustez mon cœur comme vous le voulez. J'aime bien ça. Ajustez mon cœur comme vous le voulez. L'obéissance, évidemment, réclame une grande humilité. Il dit, faites ce que vous pouvez et tenez-vous dans l'humilité. L'esprit de l'Institut doit être eucharistique, c'est-à-dire caché. Soyez alors des victimes d'amour de Jésus et pour Jésus. Souvenez-vous que la victime meurt continuellement à elle-même. Et il dit, si vous n'aimez pas les humiliations et les mépris, vous n'aurez que des masques de religieuses. Renoncez-vous. C'est toute l'essence de la vie chrétienne et plus encore de la vie religieuse. L'humilité est le fondement de l'édifice spirituel. Et il va réclamer aussi, je ne désire pas être enseveli en un endroit particulier, mais cachez-moi dans un coin de cimetière. Il a bien raison. Quel attachement on a à toutes sortes de monuments et de choses inutiles. Il est humble et obéissant. Et à une religieuse, il déclare, les pensées, si elles viennent de Dieu, sont toujours des pensées de courage. La tristesse ne fait que du mal. Les scrupules et la mélancolie, je ne les veux pas chez moi. Mais je désire servir le Seigneur avec allégresse, hein, même au milieu des tentations et des tribulations. Don Marquisio, le bienheureux Clemente Marquisio, curé de Rivalba dans le nord de l'Italie, près de Turin, avait une grande dévotion à la Sainte Vierge, et quand il parlait d'elle, on dit que son visage se transformait. C'est à sa gloire, d'ailleurs, à la gloire de Marie, qu'il a consacré son dernier sermon, le 8 décembre 1903, l'année de sa mort. Il est mort quelques jours plus tard. Il a voulu qu'une belle statue surmonte d'ailleurs l'atelier de tissage et une autre statue chez les religieuses préside à la confection des hosties. Il en avait une, évidemment, dans sa chambre. Une de ses premières dépenses, quand il était jeune curé, a été d'ériger d'ailleurs un magnifique autel à la Vierge du Rosaire. Et chaque année, il fait au mois d'octobre, le mois du Rosaire, une procession en son honneur. Il y a beaucoup de processions en Italie, dans ces pays. Et il demande aussi que l'on récite fidèlement le chapelet à l'église en famille. Que pouvons-nous faire de plus agréable à la Sainte Vierge que de l'honorer par la récitation du rosaire, prêche-t-il. Le rosaire est un don de la Vierge très sainte. C'est une prière qui unit l'oraison mentale et l'oraison vocale. Il dit, la Madone sait que nous sommes ses fils. Elle est la mère de notre salut éternel. Ayons courage. Un jour, nous verrons notre bonne mère du ciel. Avez-vous réfléchi à la grande chance que nous avons d'avoir une mère? Dans son institut, il introduit la coutume d'invoquer, quand sonne l'heure, Marie conçue sans péché. Il dit « Allons toujours à Marie et elle ne manquera pas de nous secourir et pensons à sa pureté, à son humilité, à son union à Dieu, à sa conformité à la volonté de Dieu. Efforçons-nous à la faire resplendir en nous pour lui ressembler et tenez Marie en votre cœur. » Un témoin a noté que Don Marquisio a progressé en vertu plus particulièrement durant les dernières années de sa vie. 5 ans avant sa mort, il a annoncé qu'il mourrait à 70 ans. Peu de temps auparavant, il connaît une nuit obscure, comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, comme tant de saints, une nuit obscure, comme s'il n'y avait plus rien, comme si la foi même n'était plus là. Il dit « Pauvre de moi ». Jamais le démon ne m'a ainsi tourmenté. Quelle douleur ne m'a-t-il pas fait endurer? Comme il m'a désabusé en me présentant ma vie inutile. Quelle tentation jusqu'à celle de détruire mon institut. C'est allé loin, hein? Et le dimanche 13 décembre 1903, malgré la fatigue, il n'a pas voulu renoncer à faire le catéchisme aux enfants. Même devant un auditoire très réduit à cause d'une tempête de neige. Le lundi 14, c'est pour lui une journée particulièrement chargée. Il célèbre la messe, il va voir des maçons qui travaillent, il prie à l'église, il donne des recommandations à diverses personnes pour qu'elles puissent trouver du travail. Il dresse des registres, il écrit plusieurs lettres. Et après toutes ces tâches, il ne peut, à 21h, se rendre au chevet de sa cofondatrice, dont je vous ai mentionné le nom tout à l'heure, sœur Rosalie Sismond, gravement malade. Il se retire donc dans la solitude la plus stricte. Le matin du 15 décembre, il va seul du presbytère au château pour célébrer la messe et visiter la cofondatrice, mais il ne peut y parvenir. Il est pris d'un malaise. Si seulement je pouvais encore célébrer une messe. Aujourd'hui, peut-être, je ne pourrais même pas rester mon bréviaire. Puis l'agonie commence, c'est scandé d'oraisons jaculatoires, c'est des cris. C'est beau des oraisons jaculatoires. « Mon Dieu, ayez pitié de moi, » dit-il, un peu comme les Russes font, hein, le pèlerin russe. « Mon Dieu, ayez pitié de moi. Créez en moi un cœur pur. Jésus, Marie, Joseph. » Et ce sont les dernières paroles distinctes qu'il prononce. Il reçoit le sacrement des malades et la bénédiction du pape. Dans la nuit, à 2 heures, sœur Rosalie expire elle-même. Elle le précède de 2 heures seulement dans la mort. Don Clemente Marquise y aura l'âme, en effet, vers les 4 heures du matin, le mercredi 16 décembre 1903, entouré de plusieurs prêtres, des religieuses de sa communauté, de quelques paroissiens. À quelqu'un qui lui a demandé comment il se trouvait, il a répondu, « Comme le bon Dieu le veut, j'attends qu'il m'appelle. » Quelques jours plus tôt, il avait déclaré à sœur Pasqualina, « Il n'y a pas à s'inquiéter. » Je suis tranquille. Le paradis est beau. Et ainsi finit celui qui a écrit, les choses de ce monde ne sont rien. Le ciel, l'éternité m'attend. Qu'en sera-t-il de moi, de nous? 1 million d'années après ma mort, je ne serai qu'au commencement de l'éternité. La terre est un lieu de passage où je suis comme un voyageur. La vie est un moment qui fuit. Comme l'eau du torrent. Au printemps de 1891, Don Marquisio avait rencontré à Mantoue Monseigneur Sarto, le futur Pidis, Saint Pidis. Celui-ci, devenu cardinal, a déclaré plus tard aux filles de Saint-Joseph, « Savez-vous, mes sœurs, que votre curé de Rivalba est un saint? Oui, votre fondateur. » Faut grandement tenir compte de ses paroles, de ses avis, de ses souvenirs. Plus tard, le corps du Saint-Curé sera transporté du cimetière à l'église paroissiale. Le 30 septembre 1984, Jean-Paul II béatifie Clemente Marquisio, Clément Marquisio, en le déclarant qu'en lui resplendissait l'image du Christ, bon pasteur. C'est ça, un prêtre. Un prêtre, c'est un bon pasteur, à l'image du bon pasteur, et l'image du Christ resplendit en lui. C'est ça, un prêtre. Quant aux filles de Saint-Joseph, répandues de plus en plus de 30 maisons à travers le monde, elles continuent à préparer chaque mois des millions d'hosties. Apprécier, on pourrait dire, des chars et des chars de vendange pour faire du vin de messe. Elle avait des tonnes de linge liturgique et Saint-Pierre de Rome, comme je vous ai dit, utilise leur service, mais aussi beaucoup d'humbles chapelles dans les pays de mission. Et leur vie continue. Elle continue à l'image de ce prêtre, humble et vrai. Elles sont toutes orientées vers l'autel où se célèbre l'Eucharistie. Et vers le tabernacle où est conservé le corps vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les heures de travail alternent avec celles de la prière, puis en particulier de l'adoration eucharistique. C'est comme ça que vivent ces femmes, à la suite de ce saint prêtre, le bienheureux Clemente Marchisio, décédé le 16 décembre 1903.